Ceci est la rediffusion de l'émission Cappuccino.
L'Italie chez vous, le dimanche matin, c'est Cappuccino.
Alors, on vous souhaite un beau réveil, plein de bonnes choses. Aujourd'hui, il va faire beau, donc il faut en profiter.
Ero tentato ma no, no, oh. E va bene lo so, oh, oh. Ma com'è bella la vita e la tua faccia alle sei di mattina.
Ma tu non piangere. Non si.
Aligre FM presente Cappuccino.
Merci Raphaël et merci Renato pour cette première partie.
Bonjour à toi, Alain.
On passe à la deuxième partie. Michel est toujours occupé, quelque part un peu bloqué.
Et toujours sportif, quoi.
Toujours sportif, espérant qu'on va pouvoir le retrouver un jour en direct. Et on salue il ritorno di Fabrice Masera. Buongiorno.
Bonjour Alain, bonjour à tous, bonjour Raphaël et Renato et tutti quanti.
Buongiorno, buongiorno.
Comment ça va?
Nous, ça va, on est là.
Siamo qui. Bon, ben, on pense beaucoup à Michel, hein, qui est malheureusement immobilisé pendant quelques temps, mais bon, forza coraggio, il va nous revenir. Il va nous revenir tout neuf après un petit passage à l'atelier et
un coup de lime.
Et comme ça, ça ira beaucoup mieux. Ciao, Michel. Alors, aujourd'hui, on a un joli programme avec du sport, avec de la chanson, avec des paillettes, des strass, enfin plein de choses, quoi. On va commencer tout de suite avec le sport. Je vous emmène en Vendée pour le Vendée Globe 2024. C'est tous les 4 ans. Mmh. Et donc, c'est toujours à la même date. Donc là, c'est une seule date à retenir, le 10 novembre. 2024 à 13h02, départ donc des Sables d'Olonne en Vendée, tour du monde à la voile en solitaire sans escale. Le principe, c'est qu'on part des Sables d'Olonne, on passe, on descend, on passe les trois caps, Bonne Espérance, Cap Lévin, Cap Horn, et on revient aux Sables d'Olonne, et tout seul. Voilà, c'est ça un peu le principe de ce tour du monde. 40 skippers donc sur la ligne de départ. La plus jeune a 22 ans, on en reparlera, je l'ai interviewé. D'ailleurs, vous pouvez avoir mon interview en intégralité sur ma chaîne Et Vive à la Pape. Là, ouais, je vais vous passer mes interviews de Giancarlo Pedotte et de Fabrice Amedeo, aussi que j'avais interviewé pour Cappuccino il y a quelques temps, qui est aussi d'origine italienne, et aussi de Titouan Lamazou, qui est le premier... vainqueur du Vendée Globe en 89, donc c'est le 10e Vendée Globe, mais comme c'est tous les 4 ans, le premier Vendée Globe était en 89. Voilà, donc 22 ans pour la Benjamine, donc bon, on va en reparler, mais voilà, 22 ans quoi pour un tour du monde, et ça va jusqu'au doyen Jean Lecam, le roi Jean, 65 ans, 6e participation. Alors là aussi, il est dans mon reportage en intégralité. Je vais poser une question assez large, mais il m'a répondu de manière sibylline. Qu'est-ce qui vous fait aller comme ça repartir pour un Vendée Globe? Qu'est-ce que vous allez y chercher? Il m'a répondu, on va y chercher ce qu'on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'on y retourne. Et s'il le dit, c'est que ça doit être vrai, parce que faire 6 tours du monde, enfin il en a fait même plus que 6, mais 6 Vendée Globes, c'est quelque chose d'incroyable. Mais il a toujours envie, il est fasciné, il a toujours envie d'y aller. Donc cette semaine, tous les bateaux sont arrivés au village. Le village a ouvert hier, samedi. Donc on peut aller voir tous les bateaux au Sable d'Olonne. Moi, je vais me rendre au Sable d'Olonne le 8 novembre pour Cappuccino. On va faire des directs, des reportages. On va essayer d'avoir un maximum de sons. Et j'espère qu'on va avoir Giancarlo Pedotte qui va nous donner toutes ses émotions et son ressenti. Voilà, je vous propose qu'on s'écoute ce reportage. Et d'ailleurs, vous allez voir à la fin, Giancarlo va nous dire quelle est sa chanson préférée qu'il écoute sur son bateau au large, chanson italienne évidemment. Et on va l'écouter un petit peu par la suite. Voilà le reportage à la conférence de presse du Vendée Globe 2024.
Giancarlo, merci de répondre à nos questions. À quelques jours du départ du Vendée Globe, tu es dans quel état d'esprit?
Je suis assez serein. On a travaillé avec toute l'équipe pour faire en sorte que ça se puisse bien se passer. Donc là, on est dans les derniers détails de la préparation. Très concentré, très focus sur cette incroyable aventure que j'ai la chance de pouvoir vivre. Et donc, voilà, là, il y a juste qu'à prendre le départ et regarder qu'est-ce que Neptune, ça va nous mettre devant.
C'est ton deuxième Vendée Globe. Qu'est-ce que tu as retenu de ton premier au niveau spirituel, au niveau de l'aventure humaine?
Beaucoup de choses. C'est sûr qu'un Vendée Globe, c'est une aventure incroyable. Mine de rien, faire les tours de la planète en solo sur un bateau, c'est quelque chose. Déjà, terminer un tour du monde, c'est un grand résultat. Et donc, je pense qu'il faut arriver humble, affronter les choses avec beaucoup d'intelligence et être très déterminé à arriver au bout de l'histoire.
Tu as écrit un livre sur cette expérience, L'anima nell'oceano. Qu'est-ce que ça raconte?
L'anima nell'oceano, ça raconte un peu tout mon aventure pendant les Vendée Globe et aussi beaucoup des moments qui m'ont permis d'y arriver sur cette importante ligne de départ. Et donc, voilà, c'est un relais et des anecdotes des voiles, mais aussi beaucoup des états d'esprit, émotions qu'une personne peut vivre toute seule dans justement 80 jours de solitude, que c'est un moment important. Et donc, je cherchais des relais, de parler de la forme la plus fidèle de toutes ces émotions, sans filtre, justement pour permettre au lecteur de se mettre à ma place et de vivre un tour du monde avec moi.
Ce que je retiens spirituellement de mes expériences en solitaire dans l'océan, c'est que la beauté du cosmos régulièrement me rapproche du divin. J'ai plutôt une sensibilité d'athée, avec quand même un questionnement. Et j'ai des très beaux couchers de soleil, des très beaux paysages qui peuvent parfois me ramener quand même à cette question, existentielle, oui, et surtout essentielle, du divin et de ce qui se cache derrière... Derrière cette nature si parfaite, hein, ce grand architecte qui pourrait derrière tout ça. Donc voilà, je dirais que le Vendée Globe, la course au large, la navigation solitaire, ça m'éloigne de la civilisation, ça m'éloigne des gens en général, mais ça me rapproche du monde au sens la totalité du monde, l'infini, et voilà, c'est cette question de l'absolu et de Dieu en fait.
Fabrice Médéo, merci de répondre à nos questions. Vous faites partie, on vous a présenté comme un des marins aguerris de ce prochain Vendée Globe, ce 10e Vendée Globe. Vous êtes à votre 3e participation. Vous êtes dans quel état d'esprit à quelques jours du départ?
Quelques jours du départ, je suis dans un état d'esprit très serein. Le Vendée Globe, pour moi, c'est une histoire d'ombre et de lumière. Le premier Vendée Globe, ça a été le succès. Le deuxième Vendée Globe, ça a été l'échec avec un abandon en Afrique du Sud. Donc voilà, ce 3e Vendée Globe, l'idée c'est de terminer, donc de faire la plus belle des courses possible, vivre la plus belle aventure possible, le partager, et on verra à l'arrivée, mais il faut franchir cette ligne d'arrivée.
Tito Lamazou, vous êtes le premier vainqueur du Vendée Globe en 89, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience?
Ça fait quand même plus de 30 ans, et ça a peut-être pas modifié mon ADN, mais j'ai l'impression que c'est inscrit dedans, quoi. C'est-à-dire que j'ai remporté le premier Vendée Globe, et ça a gêné, ça fait partie de ma vie, ça fait partie des étapes de ma vie, en fait des étapes de ma vie, pas forcément plus importantes que d'autres, mais en tout cas partagées avec un plus grand nombre. Là, c'est sûr.
Vous avez une exposition à l'occasion du village du prochain départ?
C'est pas à l'occasion du village, j'ai été invité par le MASC, le musée d'art contemporain des Sables d'Olonne, qui est un très beau musée, le musée de l'abbaye de Sainte-Croix. Cette exposition, j'essaye de... avec mon travail en peinture, de partager ma conscience de la minceur, de la fragilité de notre minuscule habitat ici-bas, qui représente une fine pellicule, qui est à peu près comme un vernis sur une boule de billard, quoi. Et qu'on est et j'essaye de montrer le merveilleux de ce mince habitat que j'appelle le paradis sur Terre. Le paradis est sur la Terre, il n'est pas ailleurs. Il est probablement unique dans tout l'univers, puisque jusqu'à présent, on n'a jamais trouvé l'équivalent.
Qu'est-ce que vous aimez écouter comme musique quand vous êtes en bateau, en mer ou quand vous peignez?
les artistes que j'écoutais pendant le Vendée Globe il y a plus de 30 ans, c'était des artistes de mon époque. C'était David Bowie, Bruce Springsteen, même si j'avais amené toute une collection des œuvres de Verdi, j'ai plutôt écouté le rock'n'roll.
Je peux vous dire, dans les moments un peu sympas, Bob Marley, c'est quand même vraiment cool. Et j'ai un petit faible pour Tracy Chapman dans les moments un peu de contemplation.
Qu'est-ce que tu aimes écouter quand tu es en mer tout seul? Moi, j'aime écouter Franco Battiato, qui c'est un chanteur qui est décédé ça fait quelques années. Mais j'ai grandi avec sa musique et je ne pouvais pas m'en priver pour mon Vendée Globe qui va arriver. Il y a beaucoup de chansons.
Non.
Mais je pourrais te dire Segunda Feira.
Je souhaite surtout bonne chance et bonne mer. Merci beaucoup.
On te souhaite bonne mer avec tous les auditeurs de Cappuccino à Allegre FM et on va te suivre et on va supporter beaucoup.
Super, merci Fabrice.
Voilà, donc pour la première fois pour ce Vendée Globe, il y aura, Alain, écoute bien, parce que c'est une information hyper importante, un album Panini de tous les skippers, des 40 skippers. Donc tu vas pouvoir
collectionner
l'autocollant de Giancarlo et des autres skippers. Il y a aussi le jeu vidéo Virtual Regatta qui réunit un million de joueurs dans le monde. Ça c'est énorme. Alors il y avait une humoriste que j'aime bien qui avait dit une phrase: le plus dur dans le Vendée Globe, c'est de rentrer vivant en Vendée. Voilà, elle disait qu'il valait mieux peut-être faire du pédalo à Noirmoutier que de faire le tour du monde en solitaire sans escale.
Est-ce qu'on peut pas faire la course aussi sur son ordinateur virtuellement?
Ouais, c'est ça. Voilà, c'est Virtual Regatta.
D'accord.
Ouais. Virtual Regatta. Et donc, on a exactement les mêmes, la technicité. Et je crois qu'il y a même une fois un joueur qui a réussi à gagner, ou je sais plus s'il a gagné ou il a fini dans les premiers, et ils lui ont permis de faire en vrai les sélections. Bon, il a pas passé les sélections, mais il a fait en vrai les sélections pour le Vendée Globe. Alors, écoute, Alain, tu peux garder la parole si tu as quelques informations culturelles à nous communiquer.
Exposition, théâtre et cinéma. Les expositions, c'est à voir avant la fin, c'est bientôt, pour le 5 ou le 11 novembre. Les chefs-d'œuvre de la collection Borghese et donc au musée Jacquemart-André. Ce petit musée qui a recueilli plusieurs tableaux qui viennent de la collection Borghese de Rome, de la Villa Borghese. Et au Louvre, c'est la collection Torlonia. Là, c'est
Elle a été prolongée, jusqu'en janvier.
D'accord.
Ouais, ouais. Jusqu'au 5 janvier. L'expo Torlonia, la collection Torlonia, exactement, sur les statues romaines.
Ok. Et donc, oui, en revanche, Torlonia est prolongée, non?
Ouais, Torlonia. Ok. Ouais. Ah, ouais.
Très bien. Donc, ça, c'est au Louvre, au théâtre. On peut toujours applaudir Caterina Morino dans La Vedova Scaltra, La Veuve Rusée en français. C'est au Théâtre des Bouffes Parisiens. Et un autre Goldoni, qui est La Serva Amorosa, au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Cette fois-ci, c'est Isabelle Carré qui joue le rôle-titre. Au théâtre différent, qui a commencé cette semaine, le 18 octobre, La Femme au bouquet de Desiderio Montironi, interprété par Nina Caracosta. Ça se joue les vendredis et samedis à 20h30 et les dimanches à 16h30 au guichet Montparnasse. C'est jusqu'au 10 novembre. Et si vous téléphonez au 01 43 27 88 61, au théâtre, donc qui est dans le 14e arrondissement, en donnant le mot de passe femme 14, on ne paye que 14 euros. Donc voilà, à voir donc jusqu'au 10 novembre, pendant le mois d'octobre. Et puis également, c'est un petit peu à l'avance, mais là, le Surtout pas de vague de Joël Adani, qu'on avait également reçu.
C'est à propos des
coulisses du pouvoir. Et donc, c'est au théâtre Galabru, qui est rue de l'Armée d'Orient, métro Abbesse ou Blanche. Ça, ce sera tous les dimanches du mois de novembre à 20h30. Et là, il faut passer plutôt par ticket réduit pour avoir un tarif préférentiel. Et enfin, cinéma. On a en ce moment la rétrospective Pietro Germi à la Cinémathèque. Aujourd'hui, on peut voir deux films, un Gelosia et le second, Serafino, interprété par Adriano Celentano, qu'on connaît bien ici. Et là, c'est également, on a la Cinémathèque offre à nos auditeurs un tarif réduit à 4 euros avec le mot de passe Jeremy Cappuccino. Donc, soit en caisse, soit en réservation en ligne, en donnant le mot de passe Jeremy Cappuccino, vous n'avez qu'un tarif à 4 euros. Voilà, alors bientôt sortira le nouveau film d'Alain Gilly sur Vittorio De Sica, sous-titré Les chemins du réalisme, le 6 novembre, mais on espère pouvoir recevoir en décembre Jean Gilly pour nous en parler plus longuement.
D'accord, très bien. Alors moi j'ai une info cinéma aussi, bon je pense que tu vas en parler, mais d'ores et déjà ils ont fait le lancement, d'ailleurs qui va commencer dans pas longtemps, c'est le 47e festival du film italien de Villerupt. Donc ça commence le 25 octobre jusqu'au 11 novembre. Donc Villerupt, ville minière et sidérurgique entre le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne, avec 60% d'habitants d'origine italienne, dont la famille de Fabrice Lucchini. Voilà, donc créé en 76, ce festival donc a lieu cette année. Énorme festival, 35 000 spectateurs par édition. Là, j'ai retenu quelques films. Lettres siciliennes de Fabio Grassadogna. Ah, oui. C'est avec Tony Servillo qui joue le parrain. Alors, il joue lui-même le parrain familial de Matteo Messina Denaro, qui se voit offrir la liberté par les services secrets italiens en échange de l'aide pour capturer son filleul. On sait qu'il a été arrêté en 2023, ce chef mafieux qui est un des tueurs de Totorina, un des tueurs vraiment qui travaillait pour Totorina, qui est interprété par Elio Germano. Il y a le Déluge, ça c'est sur l'histoire d'un valet de chambre de Louis XIV et de Marie-Antoinette, c'est avec Mélanie Laurent et Guillaume Canet, c'est un film italien de Gianluca Giudice. Il y a Diabolique, il fumetto Diabolique, qui es-tu, ça c'est avec Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Pier Giorgio Belloc, le fils de Marco Belloc. Et aussi dans les classiques, il y a Le Venin de la peur, Una Lucertona qu'on l'appelle di Donna, super musique de Ennio Morricone, de Lucio Fulci de 71 avec Florinda Bolkan et Jean Sorel que tu connais bien.
Oui, un petit peu.
Voilà, donc cérémonie d'ouverture le 25 octobre avec projection de Divorce à l'italienne, et sinon il y a énormément d'animations, tournois de belote, pasta party, karaoké, voilà, pour le festival italien du film de Villerupt.
Alors, Giudice, il avait fait, qui avait gagné un prix il y a quelques années, Il Cattivo Poeta, sur D'Annunzio, qui était retiré dans son Vittoriale, avec Sergio Castellitto et Fabio Grassadonia. Il avait fait un film que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelait malheureusement le titre anglais, Sicilian Ghost Story. C'était l'histoire d'un gamin qui avait été enlevé par la mafia et dissous dans de l'acide. Mais le film n'était pas du tout un film horrible, et c'était un très beau film, qui avait été même sélectionné à la semaine des réalisateurs à Cannes.
Eh bien, je pense qu'on a été quand même assez complet sur le cinéma cette semaine. Absolument. Donc, on va s'écouter le morceau de Franco Battiato dont a parlé Giancarlo Pedot. C'est un morceau de 1996 de l'album L'Imboscata, avec des textes, c'est pour ça, à mon avis aussi, qu'il l'a sélectionné, que c'est son morceau préféré, des textes du philosophe de Syracuse, Manilio Sgalambro.
Nel mio antico mare, nell'acqua occidentale, nel Mediterraneo, affollato di navi e corpi di ignudi nuotatori. Guardo da fiere, gli occhi di lince dei braganza fissano il nord, sognando l'oltremare come ghirlanda intrecciano una danza. Dentro do meu coração, todos os lugares são destino. A entrada de Singapura, o coral das Maldivas, Macau da noite a uma hora, a uma hora. Me porto com segunda-feira de Lisboa, nel mio antico mare, nell'acqua occidentale, nel Mediterraneo, affollato di navi e corpi di nudi nuotatori. Segunda-feira de Lisboa, che nome d'incanto qui da noi. E lunedì soltanto.
Voilà, Franco Battiato, dimanche matin, cappuccino, on est là, on est avec Giancarlo Pedotti, parce que comme ça, c'est un grand sportif, un grand athlète, on est bien. Alors, on accueille aussi une grande athlète et sportive, hein, puisqu'elle est danseuse.
C'est gentil,
je voyais pas Regina Rebecca, bonjour Regina.
Bonjour à tous.
Et merci bonjour, beaucoup d'être venue ce matin, parce que hier soir, ben moi j'étais venue te voir, ou vous voir, je sais pas si on se voit,
on
se tutoie. Mais,
on peut se tutoyer, dans on un était spectacle, deux ou trois, oui, en effet.
Dans un spectacle d'Alida, qui a fini du coup tard, parce qu'il y avait une super ambiance, et bon, c'était génial, on va en parler tout à l'heure. Mm-hmm. Mais merci beaucoup en tout cas d'être là, parce que ce soir aussi, vous avez un concert à Montmartre.
Oui, ce soir, c'est à Montmartre, c'est au petit café de Montmartre.
Ouais. Bon, ben, en tout cas, c'est hyper gentil. Voilà, on voit quelqu'un de courageux qui me dit, voilà, je lui ai dit, il faut venir en direct à 9h30. Elle me dit, c'est bon, je viens, il n'y a pas de problème, j'ai fait pire.
Oui, là, j'ai dormi, c'est bien. Déjà, je ne la vois plus reposer.
Voilà, alors, on va avoir une petite info culturelle, oui, télévisuelle. Donc, c'est la saga Berlusconi. C'est une série documentaire sur Arte en 3 épisodes de 52 minutes. C'est absolument délicieux à voir parce que c'est les images des années 80. Alors, les 3 épisodes, c'est le mania des médias, hein, sa conquête de la télévision, le pionnier de la télé privée et le père du nouveau populisme. Donc, l'Italie est toujours et plus que jamais, malheureusement ou heureusement, on va dire, avec Berlusconi, le laboratoire politique du monde occidental. Et c'est vrai que ça a préfiguré tous les Orban, les Trump, qui ont... on voit toute la... Comment il a créé son ascension par rapport à la Berlusconi. Tiens, d'ailleurs, Regina, une qualité qu'on ne peut pas lui enlever à Berlusconi, c'est que c'est un très bon chanteur, connaisseur de Piaf, Trainé, Aznavour. Et vraiment, c'est un super chanteur. On le sait pas trop, mais bon, voilà. Au moins, on lui accorde une qualité, le reste, bon, on verra plus tard. On a des images un peu à la Bernard Tapie dans les années 80 avec Véronique et Davina, tu sais, les trucs.
Oui, tout à fait. Je connais Bernard aussi, hein, j'ai fait une interview télé avec lui. Voilà. En 2005, je crois.
Et alors, ça me fait penser, Bernard Tapie, justement, quand il est fait avec Véronique et Davina, Véronique de Villèle, qui est une amie, très bonne amie d'Alain Delon, et de Lydia Martinico. Ah, d'ailleurs, oui. Ça me permet de dire que Lydia va faire son retour sur scène très bientôt, dans un mois à peu près, au mois de novembre à Paris. On va vous en parler plus en avant.
Et donc, un bisou à Véronique.
Un bisou à Véronique de Villèle. Alors, bon, ce qui est sympa dans ce documentaire aussi, c'est le lancement de la 5. Alors, c'était le 20 février 86. Alors justement, Rebecca, si vous étiez là à l'époque, vous étiez trop jeune, mais il y avait un Concorde avec des danseuses de revue qui sortaient. Il y avait les plus grands chanteurs et français, Aznavour, Hallyday, tous pour la 5. Et donc, à un moment donné, Berlusconi arrive sur le plateau, furibar et tout. Il dit, mais qui est ce clochard que vous avez mis qui va me bousiller le plus grand show de ma vie? C'était Serge Gainsbourg. Donc voilà, il y a plein d'images comme ça dans ce documentaire. C'est vraiment à croquer, à picorer, comme on dit. C'est en visionnage jusqu'au 16 décembre 2024 sur Arte TV Histoire. Et donc voilà, on vous encourage à regarder pour avoir aussi cette histoire, ce pan d'histoire de l'Italie. Il y a des interviews d'Anne Sinclair, de Jack Lang actuel. D'ailleurs, Jack Lang a pas de mots assez durs pour dire justement sur le cinéma que Berlusconi est l'assassin du cinéma italien. Il le dit clairement. Voilà, alors on va rester dans les années 80 avec un chanteur, Sergio Caputo, qu'on avait déjà interviewé il y a 3 ans quand il était venu à Paris. Il a commencé sa carrière dans les années 80. Il a participé 3 fois à Sanremo. Son premier album a été un raz-de-marée puisqu'il est classé dans les meilleurs albums italiens de tous les temps par le magazine Rolling Stones. Ça s'appelle Un Sabato Italiano. On l'a interviewé donc à Paris. Il est venu début octobre pour 3 concerts à l'Osteria Trudaine, le café de la très active Christine Piazza, qui fait des cafés Alzheimer, qui fait des cafés théâtre, qui fait des tricoteuses. Enfin, il y a plein d'activités sur son café Osteria Trudaine que je vous invite à aller. Voilà, l'interview elle est en italien. Comme ça, ça va nous permettre un peu d'entendre de l'italien, mais je vous la résume juste après Sergio Caputo.
Siamo a Pigalle, avenue Trudaine, nell'osteria di Christine Piazza, e siamo con Sergio Caputo. Buongiorno.
Buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando e speriamo che sarà una bella giornata per tutti.
Ci siamo sentiti 3 anni fa in un'intervista in diretta alla radio. È un italiano a Parigi ormai, Sergio Caputo, è sempre in giro in Francia, sta sempre in Francia?
Sì, ormai sono qua, ho i figli a scuola qua, quindi ormai sono, anche se non ci volessi stare, ma ci sto molto volentieri.
Hai fatto 4 concerti all'Osteria, qual è la tua formazione adesso? C'è una batterista e poi?
E poi un bassista di Parigi, Emmanuel Chabet. E la batterista brevissima che è anche una grande cantante, una grande artista al di là a 360 gradi, Ophélie La Roche, che è molto conosciuta nel sud della Francia spero sarà conosciuta in tutta la Francia molto presto.
Torniamo un po' negli anni Ottanta, perché quando ti vedo diciamo che pensiamo agli anni Ottanta, quell'epoca che ormai è un po' passata, oggi è tutta WhatsApp, Instagram. Parliamo un po', che cosa abbiamo perso dagli anni Ottanta secondo te?
Un sacco di soldi nella musica, perché prima la musica veniva comprata sotto forma di vinili, poi sono passati ai CD e già lì è diminuito molto il guadagno dei musicisti, perché non tutti volevano comprarsi il lettore del CD. Poi quando finalmente la gente si è abituata ai CD sono venuti fuori i formati digitali, quindi la gente ha cominciato a scaricarsi la musica gratis dai siti pirata. Poi è nato iTunes per diciamo risolvere questo problema. Da allora poi sono nate tutta una serie di altre cose, ma quello che sta uccidendo la musica è veramente lo streaming, anche se non si può non esserci, quindi da una parte siamo costretti ad esserci, dall'altra sarebbe meglio tornare indietro.
C'è una frase che dice la nostalgia e la felicità di essere triste di Victor Hugo, cosa ne pensi?
Beh, ci vorrei pensare, perché sono una persona poco nostalgica e poco triste in contemporanea, però può darsi che questo possa essere applicato a chi vede la nostalgia o la tristezza come uno stato d'animo necessario. In effetti la maggior parte delle canzoni vengono scritte quando uno è più che altro malinconico, perché quando uno è felice non sta a casa a scrivere le canzoni, vuole uscire, vuole ridere, vuole...
Il 30 agosto 2024 hai messo sui social una foto con scritto 70. Come è andata questa giornata?
Beh, ho fatto una piccola festicciola a casa con una coppia di amici e la mia famiglia, che siamo in 5, E poi tutte le mattine devo ricordarmi questa cifra, perché tendo a sentirmi come se fossi un trentenne, ma ovviamente ci saranno, immagino, cose che facevo a 30 anni che non potrei più fare, quindi devo regolarmi.
E quali sono i chitarristi che ti hanno ispirato?
Beh, sono diversi, quindi parto, non so, da una chitarra suonata a stile ZZ Top a qualcosa tipo Joe Pass, a qualcosa, ecco, un mio eroe da chitarra è Bruce Foreman, col quale ho avuto l'onore di suonare insieme, c'è tutto un album che ancora non è uscito, dove c'è lui alla chitarra. Diciamo che il mio modello ispirativo comunque non è un modo di suonare molto complicato, cerco di stare il più semplice possibile per non invadere diciamo il significato delle canzoni, che secondo me è la cosa più importante.
Ma sempre con belle armonie.
Sì, cioè, grazie.
Nella canzone Night canti un sorriso al Fernandel di una cassiera che ti conta Parigi. È una storia vera? O?
Sì, sono tutte storie vere.
Cosa ti ha contato su di Parigi?
Mi raccontava di quando aveva lavorato qua per molto tempo, eccetera, è stato molto felice. Ma c'è un personaggio che spunta nella stessa canzone, che è un attore al cui ero molto affezionato, che è Fernandello, che essendo stato poi dimenticato dal pubblico, quantomeno quello italiano, perché appunto è morto da tanto tempo, avevo pensato di togliere dalla canzone, perché la gente non avrebbe capito chi era. Mentre stavo facendo questo pensiero, in un supermercato ho visto uno scaffale pieno di formaggi che si chiamano appunto Fernandel, con l'immagine dell'attore, quindi ce l'ho rimesso subito.
C'è un'immagine dell'attore in Villanova d'Arde, che è la città dove è nato Giuseppe Verdi, perché il borgo è gemellato con Carry-le-Rouet, vicino a Marsiglia, dove stava. C'è la sua foto proprio all'entrata della città.
Beh sì, è una faccia che sicuramente mette di buon umore, perché quella è la sua missione nella vita. Non credo che abbia mai interpretato ruoli drammatici Fernandel. Da noi era noto come Don Peppone, che era un
Don
prete.
Camillo.
Don Camillo, sì. Don Camillo, che appunto si trovava sempre in lite con il sindaco, col quale non andava d'accordo per questioni politico-religiose. Insomma.
Allora ci lasciamo con lo spirito di Fernandel. A presto.
E speriamo che Fernandel ci assista anche questa sera.
Ciao.
Ciao.
Voilà Sergio Caputo qui nous a accordé cette interview. Alors il nous raconte qu'il vit en France, que ses enfants sont scolarisés dans le sud de la France, et donc il venait en concert à Paris à l'Osteria Truden en début octobre, avec une formation composée d'Ophélie Laroche à la batterie, une batteuse complètement déjantée, Emmanuel Chabet à la basse. Bon, on va écouter un petit morceau après. En accueillant Régine et Rebecca. Et donc depuis les années 80, il raconte que le monde musical a beaucoup changé. On est passé des vinyles au CD, au streaming, les revenus des artistes n'ont cessé de diminuer. Le 30 août dernier, il a fêté ses 70 ans, mais il est toujours très en forme, et d'ailleurs il doit se rappeler qu'il ne peut plus tout faire comme à 30 ans, parce que voilà, il se rend pas compte. Pour lui, il a 30 ans dans sa tête, et ses guitaristes favoris sont Billy Gibbons de ZZ Top, Joe Pass, Bruce Foreman, son héros avec qui il a enregistré récemment. Et alors je lui ai demandé, dans une chanson qui s'appelle Night, sur son premier album, donc en 83, il raconte l'histoire d'une caissière qui lui dit un peu tous les endroits qui étaient sympas à Paris et qui ressemblaient à Fernandel. Alors je lui dis, est-ce que c'est une vraie histoire vraie, etc. Il dit oui, c'est une vraie histoire. Et il pensait d'ailleurs enlever le nom de Fernandel dans sa chanson, parce qu'il pensait que les gens ne connaissaient pas, jusqu'à ce qu'il aille dans un supermarché et qu'il tombe sur une boîte de fromage avec la photo de Fernandel dessus. Et donc il a décidé de garder Fernandel dans la chanson. Voilà comment c'est terminé l'intervista de Sergio Caputo. Donc on va écouter un petit extrait d'un de ses morceaux. On part pour un voyage Roma, Los Angeles, mais Timmy Jew, c'était en 83, vous allez voir, ambiance un peu à l'américaine, mais en italien.
mettimi giù, e mettimi giù, oh, mettimi giù, mettimi giù due righe, fammi un quadro della situazione. Ma che lingua sporca, e tu saresti il grande squartatore, quello che azzanna le infermiere sul ponte della ferrovia. Beh, lieto di conoscerti, ma adesso fammi la cortesia, mettimi giù, mettimi giù, mettimi giù, Deo, mettimi giù. Accordi, dai, sono indietro di una canzone. Tu non fare quella faccia qui, viaggiamo tutti sotto falso nome. Questa è la strada, il resto è whisky di pessima qualità. Tu fai troppa confusione, ed io ho bisogno di tranquillità. E mettiti giù, la pedra dell'oro sta squarciando la città. Io trascorro le ferie tra gli orrori e le delizie di questa località, un posto ignobile dove è facile scoppiare. E tu mi chiedi quando andiamo a ballare, ma non hai altro da pensare. I miei problemi sono d'altra natura, spegni un po' quella radio, il bollettino dei trafficanti mi fa paura. Mettimi giù,
mettimi giù, mettimi giù, c'est pas tirami su, là, c'est le mettimi giù. Voilà, donc Sergio Caputo, qui est toujours un super guitariste, super musicien, et voilà, qui a fait plein d'albums, qui est très connu en Italie. En France, évidemment, il est beaucoup moins connu, mais voilà, c'est quelqu'un, voilà, dont on doit écouter les disques, parce que c'est vraiment un gros passionné de musique et de guitare, et voilà, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup. Alors, on va passer maintenant à notre invité, Regina Rebecca. D'ailleurs, je crois qu'on a un petit son pour ta venue.
Un son.
Si ça veut bien partir avec Enrico et Philippe. Et Philippe aussi en régie qu'on remercie beaucoup. Voilà, Regina.
Ok, public adoré. Ciao à tutti.
Alors, en fond sonore, on entend d'ailleurs le bassiste de Sergio Caputo, qui a un projet un peu vers Gallipoli, là, dans les Pouilles, façon un peu celtique, et très sympathique. Donc, Regina, Rebecca, on s'était rencontrés tous les deux, avec Lionel d'ailleurs, dont on salue la présence. À une soirée du Cercle Leonardo da Vinci. D'ailleurs, j'ai eu Jean-Raphaël hier pour lui dire je reçois Regina Rebecca, merci de nous l'avoir fait connaître et tout. Il était ravi, il m'a raconté où il t'avait rencontré dans le 94. Il a dit mais t'es sicilienne et tout, etc.
Tout ça, c'est José Todaro qui m'a présenté à Jean-Raphaël, voilà, grand chanteur de José. D'opérette que j'adorais quand j'étais toute jeune.
Et donc voilà, ça nous a permis de te connaître. C'est vrai que moi je te connaissais pas avant, on va raconter le concert un peu plus tard, mais c'est vrai que c'est une belle découverte et vraiment un personnage très sympathique. Donc chanteuse, danseuse, meneuse de revue, comédienne, donc elle sait tout faire, vraiment à un niveau incroyable. Alors vous êtes née, tu es née, ça ne s'invente pas, à la clinique Léonard de Vinci.
Exactement.
À Paris. C'est vrai.
C'est vrai, oui. Alors elle n'existe plus, mais elle était au métro Parmentier, juste à côté de la caserne de pompiers. Voilà, et je suis née là, donc franchement, et après, peut-être que je renais grâce au cercle, Leonardo da Vinci, voilà.
Écoute, j'espère, hein. Alors, t'es inspirée par des danseuses, c'est vraiment l'école américaine, italienne, où on peut tout faire, quoi, c'est pas...
C'était très cloisonné en France.
France, c'est un peu plus intello, un peu plus savant, tout ça, des fois on est dans la littérature, etc. Là, c'est vraiment... tes inspirations, c'est Sid Charisse, Brigitte Bardot, Barbara Streisand dans Yentl, la musique de Michel Legrand, Mina, la grande Mina aussi, qui savait tout faire.
Dalida.
Alors Dalida, évidemment, on va en reparler, bien sûr, voilà. Parce que c'est ton spectacle. Mais tu chantes aussi Céline Dion, Whitney Houston, donc des chanteuses avec de la voix. Alors, tu as une histoire aussi avec Toto Cotugno, Liamori. Raconte-nous un peu
alors,
ça.
Alors, en fait, cette chanson de Liamori, on devait la réenregistrer. Je lui avais, enfin, un producteur avait envoyé la maquette. On a une version française, d'ailleurs, sur laquelle on va peut-être se repencher. On verra en parlant. À ce moment-là, il est tombé assez malade et du coup, il avait arrêté ses projets.
D'accord.
Donc, c'était en 2011, un truc comme ça, je pense. Et donc une version française qui s'appelait En nous tu veux croire.
D'accord.
En nous je veux croire, pardon.
D'accord. Alors, t'es une enfant de la balle, comme on dit, famille de musiciens, incroyable famille. Donc origine, père sicilien.
Oui.
C'est ça, né à Sfax en Tunisie.
Voilà.
Mère corse.
Exactement.
Donc, cocktail explosif. Enfin, sans jeu de mots. Mais bon, ce que je disais à Renato de pas trop t'embêter quand même, on sait jamais.
Oui, hein, je l'ai prévenu.
Et puis même Raphaël qui vient en voiture, bon. Il est là en régie, du coup, il est parti avec ses clés, là.
Il a eu peur.
Donc, ton père a chanté avec Marcel Zanini, par exemple,
l'époque,
avec Maria De Rossi, pour
exactement,
les connaisseurs.
Voilà, il chantait avec ces deux artistes fréquemment, puisqu'il était de Marseille. Il avait gagné le concours de la chanson française napolitaine aussi. Plein de concours en Provence, tout ça, etc.
Et donc, il a chanté ça avec José Todaro dans Gypsy, là, de Francis.
Ah non,
Lopez.
Il n'a pas chanté.
Non,
ah non, non, non.
Quoi
non, non, c'est, on est allé le voir quand j'étais toute petite. Forcément, quand tu es toute petite, tu vois des costumes magnifiques d'opérette, en fait.
Ah oui, ça t'a donné le...
Voilà, et tu vois José sur scène qui était absolument splendide. Et j'avais le disque hein, qui m'avait dédicacé. Oh, forcément, j'étais amoureuse de la pochette, hein, voilà, comme j'étais amoureuse de tous les chanteurs de Sacha Distel, que j'appelais Tata Distel d'ailleurs. Et j'avais envie aussi de faire de la scène. Et donc, mon père me gardait à la maison, comme il chantait, mon père de base, il mettait Gypsy à tue-tête et la journée, on chantait Gypsy quand j'étais pas plus haute que trois pommes.
D'accord. Alors, il y a aussi la grand-mère. C'est pas fini, la famille. Hein.
Ah
elle
oui,
était très grande. Il y a
la
grand-mère. Grand-mère sicilienne qui avait un projet à la Scala de Milan.
Voilà. Mais quand son père a vu ça, il l'a enfermée à la maison. Elle a pas pu partir. Parce qu'avait sa maîtresse d'école qui avait prévu un bateau pour l'emmener. Enfin, un billet, je crois que c'était en bateau ou en train, je sais, c'était en train peut-être, pour l'emmener à la Scala de Milan, enfin bateau et train, puisque c'était en Sicile, et à Gel. Et puis finalement, interdiction de partir. Voilà, donc elle est restée cloîtrée. Et quand elle a su que, et ma sœur, j'ai une petite sœur qui s'appelle Mélodie Rouvio. Mélodie Rouvio, qui est chanteuse d'opéra, voilà, et moi faisais de la chanson. Elle était aux anges parce que c'est ce qu'elle avait toujours voulu faire.
Ah oui, elle vous a vu quand même embrasser ce métier. Quoi.
C'est ça. Et côté maman, elle devait être danseuse à l'Opéra de Marseille.
Ah oui, d'accord.
Et pareil, alors côté Corse, ça n'allait pas non plus. Mon grand-père, commandant sur les bateaux, il a dit non, ma fille ne sera pas danseuse, il n'en est pas question. Donc pareil, on a enlevé de la danse toute jeune. Donc il n'y a personne qui m'a vraiment freinée sur ce milieu, à part mon père qui connaissait un peu les déboires et puis le côté plus dark, on va dire, de certaines réussites et qui a eu peur. Mais sinon,
oui.
Voilà.
Protection, protecteur.
Du moment que je faisais mes études à côté, c'était bon.
Et alors donc ta sœur, donc Regina Rebecca, ta sœur, c'est la chanteuse lyrique Mélodie Rouvio.
Oui,
Mélodie. Alto contre alto, avec les arts florissants. J'ai vu qu'il y a un groupe très connu qui se produit à l'Opéra de Versailles. D'ailleurs, on peut donner son site, melodierouvio.com,
R-U-V-I-O.
Voilà. Et alors sinon, donc toi, t'as aussi des modèles en comédie. Elisabeth Taylor, Cara Knightley, Michel Mercier, tiens d'ailleurs. Parce que tu...
J'aime bien aussi Sophie Marceau, Angelina Jolie. J'adore Sophie Marceau dans Marquise. Ce film m'a vraiment touché. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Et puis j'aime les rôles... on va dire... j'aime bien la comédie. Hein. Il y a des choses très sympas. Mais c'est vrai que je suis plus attirée par les choses un peu plus mélo, avec plein de sentiments qui passent et avec certaines émotions qu'on ne vit pas forcément tout le temps. Donc des personnages un peu hors du commun.
Alors moi, quand j'ai vu le spectacle hier soir, là, j'ai vraiment pensé qu'on était dans l'univers. Alors, énormément de costumes, on va y revenir.
T'as vu, ils sont bons, hein.
Ouais, on va y revenir parce que c'est vraiment incroyable. Mais vraiment, de manière générale, j'ai pensé qu'on était vraiment dans l'univers de Fellini, période Ginger et Fred, Almodovar, Arturo Brachetti, les Incroyables et les Merveilleuses. Ça, c'était les ancêtres des drag queens dans les Tivoli, dans les guinguettes, vers Saint-Lazare, tout ça, les ancêtres des parcs d'attractions. J'ai vraiment pensé à tout ça et c'est vrai donc transformisme aussi un petit peu.
Alors c'est du transformisme mais c'est pas du transformisme rapide comme Arturo, voilà. Faudrait qu'il me donne sa recette, ouais, parce que là j'arrive pas si vite.
Mais alors on peut déjà dire combien de ton spectacle dure, combien de temps, 1h30 à peu près, le show d'Alida.
Alors celui que t'as vu, oui, hier, en fait il y a plusieurs versions. Là hier je l'ai complètement, c'est récent, on l'a adapté au, parce que c'était le service culturel d'une ville et ils voulaient absolument quelque chose d'un petit peu plus formel, on va dire.
C'est la Villa Catala à Noisy-le-Grand, endroit, oui. Au bord de Marne.
Puis très 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 cosy en fait, avec très,
très
peu de public,
enfin,
très chic.
Voilà, une salle intimiste, mais bon, il y a quand même
une cinquantaine de personnes, mais complètement différente de ce que je fais d'habitude.
Une super ambiance, les gens étaient ont adoré, non mais c'est vrai.
Au début, j'étais très calme et tout, puis à partir de la quatrième chanson, ils commençaient à se lever, à danser.
Donc le show, tu m'as dit, il dure combien?
Alors celui d'hier, il faisait 1h30.
Voilà, 1h30. Et donc en 1h30, écoutez bien, combien de costumes, combien de fois tu changes de costume en 1h30?
Je crois que j'en avais plus d'une vingtaine hier. Hein. Ouais.
Entre 20 et 25, quoi.
Ouais, je crois que c'est ça, ouais.
Incroyable. Donc, alors, c'est toi qui es costumière avec Loïc Ney, donc ton acolyte.
C'est ça.
Qui raconte la vie de Dalida.
Oui, il y a des petites bribes qui expliquent.
Et il y a des chansons.
En fait.
Et à chaque chanson, c'est un peu
y a
comme
un
des tableaux.
Un peu différent, ouais.
Mais c'est incroyable. Par exemple, Parole, oui. Les costumes sont verts en plumes.
Alors, oui, là, c'est.
Il y a une espèce de capeline, mais qui est énorme, énormissime. Donc, du coup, qui fait un effet. Et c'est vrai que, du coup.
Et on ose le vert sur scène, ouais, mais ouais. Parce que c'était tellement beau, on a vu, ouais.
Et c'est vrai que du coup, ce que tu disais aux gens, ils peuvent prendre des photos, des vidéos, mais de pas les diffuser sur les réseaux, parce que c'est vrai que je suis complètement d'accord, ça coupe complètement la magie.
Oui, c'est vrai.
Si on voit quelque chose avant, moi j'avais pas d'a priori et tout, et on est emporté par la magie, par le spectacle. Mais si on les voit avant, comme malheureusement aujourd'hui c'est ça, tout est diffusé, c'est vrai que c'est un peu le spectacle comme Una Volta, on est vraiment pris, on a vraiment les étincelles dans les yeux et on est pris dans le.
Merci.
Dans le truc. Et d'ailleurs, moi ce que j'ai adoré dans le costume de Loïc, c'est celui où il est tout à paillettes, là. Il y a, je sais pas combien, de milliers de paillettes.
Ça fait mucho. Ouais, en fait, ouais. On a pris la base de costume de Dalida qui est en paillettes. Et donc, on a fait le même costume pour homme. Et donc, on est, comme je dis, on est deux boules à facettes sur pattes sur ce numéro.
C'est impressionnant. Costumes étaient tellement beaux, ouais. Impressionnant, simple parce qu'il n'y a pas trop d'effets de mise en scène, mais par contre, je trouve que tout est dans les costumes, quoi.
Les costumes, et puis tout est brodé main, la plupart, hein, sont brodés main. Il y a beaucoup de Swarovski qui sont brodés à la main. Et en fait, quand tu vois le même spectacle plus gros qu'on avait fait à la Nouvelle-Ève pendant un certain temps, sur 2017-2018, qui est parti un petit peu en tournée dans quelques villes, on
cabaret
a fait
de Pigalle, hein,
Marseille,
très ancien cabaret de Pigalle, je crois 1897,
racheté par le Moulin Rouge.
Ouais.
Ça appartient au
Moulin
Rouge.
On va en parler aussi. Ça va être les 135 ans du Moulin Rouge. On va peut-être faire une pause musicale justement.
Allez.
Pour écouter Dalida.
Alors oui, on va écouter un titre.
Enfin, Dalida, Rebecca Regina, qui interprète Dalida, soyons précis.
Alors c'est une reprise de Salma et Salama. Très beau titre de Dalida qu'on va entendre maintenant, qui a été complètement réorchestré par un monsieur ici présent qui s'appelle Lionel Haber.
Lionel Haber, qui était là déjà au Cercle avec toi,
qui jouait
à
déjà.
La soirée du Cercle. Mm-hmm.
Et donc ça a été joué par de véritables musiciens. Il y a du oud, il y a du violon, du violon de zigane, bien sûr basse, clavier, batterie, guitare, percu, voilà. Et synthé, ouais, synthé aussi.
Donc ambiance italo-égyptienne.
Italo-égyptienne, et le clip, on en parlera tout à l'heure.
On en parlera tout à l'heure du clip. Enrico Salma y Salama.
Le paradis, pour lui, ce n'est qu'un jardin sous la pluie.
Salma, ya Salama, je te salue, ya Salama. Salma, ya Salama, je reviendrai, Salama.
Et ben voilà, Salma Yassalama, Rebecca Regina qui a mis le feu au studio de Aligre FM, rue Richer, parce que maintenant on est dans le 13e arrondissement, on n'est plus rue de Montreuil.
Oh, tu l'as dit à l'envers, c'est Regina, Rebecca.
D'accord, c'est l'émotion, je suis pris par l'émotion là. Alors justement, on parlait de tes multiples talents. Tu as dansé, c'est ça, avec Patrick Bruel aussi, pour rester dans l'esprit.
Oui, c'est vrai que c'était
latino, arabo-latino.
Voilà. Sur le Café des Délices, j'ai dansé et fait émission de télé chez Drucker avec lui. Et avant, dans une autre émission chez Dev. C'était ça exactement. Et donc là, on prépare justement, on va enregistrer semaine prochaine la version orient arabe et la version italienne de Salma Yassalama.
Ah.
Donc tu pourras la diffuser, vous pourrez la diffuser
prochainement en italien. Cappuccino.
Voilà, sur Cappuccino, cette version reprise de Salama qui entre autres accompagne ce spectacle dont on a parlé là, qui s'appelle à la base Un soir encore avec elle, qui était à la Nouvelle Ève, qui a tourné. Je suis allée même jusqu'à Tel Aviv. J'ai fait une salle énorme de 1000 places avec un écran géant, je crois qu'il y avait plus de 25 mètres d'ouverture sur la scène. C'était immense. Voilà, avec des danseurs et danseuses
et
aussi.
Et t'es passée une fois aussi au Moulin Rouge, j'ai vu.
Alors, oui, Moulin Rouge, oui, tout à fait. C'était lors de des Trophées de la Nuit, grâce à Alexandre Abibi. C'était la remise des Trophées de la Nuit sur scène. Et j'étais donc sur la scène du Moulin Rouge, en costume de Dalida avec la perruque et le grand manteau.
Voilà, c'est ça. Alors justement, ça me permet d'en parler un tout petit peu. C'est les 135 ans du Moulin Rouge cette année, fondé en 1889, donc le cabaret du fameux French Cancan avec...
Attends, je te filtre.
Avec donc tes collègues, les célébrissimes Lagoulu, Mimi Patenlère, Grille d'Égout, Mistinguette.
Que j'aime les aigrettes, les plumes et les toilettes, c'est vrai.
Et donc les revues ont pour chorégraphe, alors les créatifs, on va dire, du Moulin Rouge, c'est le chorégraphe Ruggero Angeletti, hein, vous voyez un peu son origine, et le créateur de costumes Corrado Collabucci. Voilà, et ils font travailler des artisans français, donc comme toi, c'est vraiment à l'artisanal, des brodeurs, des bottiers, les plumes, etc.
Et d'ailleurs, alors là, c'était nous les brodeurs, hein. Sur le show d'Alida, on a tout fait,
je sais.
Ouais, ouais,
les costumiers, c'est vous.
C'est pas possible. Il y a des choses qu'on a dessinées et faire certaines grandes lignes, mais c'est un plaisir de coudre et de broder aussi. C'est une autre de nos facettes artistiques.
Ouais, non, c'est vraiment très réussi. Et donc, on retrouve, cet esprit strass et paillettes qui nous donne quand même du baume au cœur parce que le monde est un peu fou, n'est-ce pas, en ce moment. Mais là,
c'est bizarre.
Là, on est dans un.
Donc, n'hésitez pas,
dans une parenthèse de folie. Mais de folie douce et avec Loïc là, qui fait plein de traits d'humour, etc., qui est assez tordant. Et donc ce soir aussi à Montmartre.
Alors à Montmartre ce soir, ça n'a rien à voir. C'est vraiment là, je suis pas en costume, je chante en tenue.
En petite robe noire.
Non, mais il y a du Piaf, il y a du Dalida, c'est Montmartre de toute façon aussi. Et puis il y a d'autres titres aussi beaucoup plus modernes, récents. Ça va jusqu'à La Grenade, je crois, de Clara Luciani. Je chante rarement dans des cafés ou des choses comme ça, mais là c'est un endroit que j'ai pris en affection, qui est fréquenté par beaucoup de monde. Daniel, la patronne, est une figure de Montmartre. Et le petit café de Montmartre est devenu un petit peu légendaire. On y voit souvent Jean-Paul Rouve, on y voit Valérie Trierweiler, plein de gens. Et c'est un petit café qui paye pas de mine quand on le voit, mais une ambiance. Et puis les gens qui sont là sont plein de vie. Il y a Yarol Poupo qui vient souvent. Yarol Poupo, voilà.
Ah
tout
ouais,
ça.
Le guitariste de Johnny.
Ouais.
Le guitariste de Johnny.
Il y a plein de gens qui sont là-bas.
Alors, est-ce que tu veux qu'on écoute un petit peu de...
Oui, d'une deuxième chanson
qui s'appelle
Eux, que j'aime beaucoup.
Voilà,
c'est une
chanson
également de
Dalida.
Avant,
parce qu'il n'y aurait plus que 3 minutes, mais on va quand même écouter un extrait.
Alors, une petite minute.
Il y a tant de joie dans leur moindre sourire, qu'à les regarder vivre, moi j'en ai peur pour eux. Dans leur inconscience, c'est leur insolence qui parle pour eux. Eux, dans leur innocence, ils ont l'indécence des gens trop heureux. Eux, les regarder vivre, d'ouvrir un livre où tout serait bleu. C'est une légende, il ferait offrande de sa vie pour eux. En les regardant dans un amour si grand, j'en ai le cœur qui pleure un triste adieu. Ma pensée s'égare par un simple regard, car cet amour je l'ai connu comme eux.
Voilà, moi je trouve que c'est un peu une ambiance à la Françoise Hardy là. Comment s'appelle la chanson?
Ça s'appelle Eux. Elle nous parle forcément des couples, et c'est Dalida qui l'a chanté tellement bien, parce qu'elle parle de ces couples qui sont donc ensemble, et on comprend tacitement qu'à ce moment-là, elle n'est pas en couple, je pense, ou en tout cas, elle le joue très bien.
Alors justement, en parlant de couple, j'ai une toute petite info, c'est un couple très, très connu, qui fête ses 65 ans. C'est Astérix et Obélix.
Ah, d'accord.
De Albert Uderzo, créé donc en 59, traduit en 117 langues, et qui va faire son entrée au musée Grévin mercredi prochain, le 23 octobre.
Par contre, il réservait un mauvais sort aux Romains, quand même.
Hein. Eh oui, c'est vrai.
C'est pas très bon pour nous, tout
oui,
ça.
Oui, mais Albert Uderzo, donc, est né en 27, Silvio Leonardo Uderzo, qui est fils de luthier de guitare et sa mère qui était de Vincenze, de Toscane, et lui de Vincenze. Voilà, il a créé cette BD, et donc il va y avoir cette grévisation. On est presque sur la fin. On va repasser.
Un petit bout de Salama.
Voilà, Salama ya Salama. Et puis, si tu peux nous pousser un peu la voix et peut-être nous finir à nous parler avec la voix de Dalida.
Éventuellement, je pourrais vous parler avec la voix de Dalida, avec beaucoup de respect, parce que c'est une femme que je trouve qui était absolument merveilleuse, avec un cœur énorme sous ces pierres précieuses de son corsage.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, Régine Herbeca. Donc maintenant, à partir de maintenant, on va te suivre vraiment sur les réseaux.
Marche,
on
ouais.
peut donner ton Instagram.
Alors, Insta, c'est Régina Rebecca Paris, en trois mots.
Voilà.
Régina Rebecca Paris, et sur Facebook, Régina Rebecca.
Et donc, faut vraiment la voir en concert, en show.
Mais il faut aussi appeler les programmateurs pour être programmé sur des salles de spectacle et de concert. N'hésitez pas, voilà, à nous contacter.
Merci beaucoup.